France Culture.
À Voix Nues, épisode 2, l'entrée en politique, les années 70-80. Bonjour Josep Borrell.
Bonjour.
Je voudrais parler de l'entrée en politique, de votre entrée en politique dans cette Espagne des années 70-80, au tournant de la dictature franquiste, mais peut-être faut-il commencer par ce qui a préparé votre esprit à l'idée même de faire de la politique, peut-être même une sorte d'ouverture au monde. Vous disiez dans le premier épisode que vous avez grandi dans un village catalan sous le franquisme. Et qu'est-ce que représentait le franquisme ? Vous avez raconté que le fait d'avoir vu autant d'Andalous arriver dans votre village vous a éveillé à ce que pouvait être à la fois une forme de lutte des classes et de xénophobie. Il y a un autre épisode qui a été important dans cette ouverture peut-être au monde, voire à la politique dans ces années-là, c'est que vous avez eu une expérience dans un kibboutz au détour des années 69-70.
Mm-hmm. Vous savez, Franco, qui n'était pas bête du tout, au moment de faire l'armée, faisait clairement la différence entre les étudiants universitaires et les gens du peuple. Alors, les étudiants universitaires ne faisaient pas l'armée avec les autres. Ils faisaient l'armée seulement pendant les étés. Ils allaient dans des écoles militaires de sous-officiers et on faisait les étés. On faisait l'armée en petits morceaux. Et à la fin, vous sortiez officier de la réserve et comme ça, vous ne me liez pas avec les soldats normaux. Non? Donc, j'ai passé tous mes étés en train de faire mon service militaire. Donc, pas de vacances. Et quand j'ai fini l'école d'ingénieur, j'ai dit, bon, maintenant, je prends mes vacances. Et comment je prends mes vacances? En lisant Le Monde. Le Monde, ça a été un de mes nourritures intellectuelles.
Le journal Le Monde.
Je l'ai découvert quand je suis arrivé à Madrid en 1965. Et depuis lors, je suis un lecteur assidu du Monde. Il proposait de faire un stage dans un kibboutz. Et à l'époque, je ne savais pas trop bien qu'est-ce que c'est que la Palestine, le kibboutz, tout ça. Mais je trouvais que c'était intéressant. Et je suis inscrit, je suis allé, j'ai passé là 3 mois. J'ai connu ma femme, française, qui avait fait comme moi. Elle n'était pas du tout juive, parce que normalement en Espagne, on me dit « Ah, mais la femme de Borrell était juive ». Non, elle n'était pas juive du tout. Elle était une étudiante française qui était allée faire son aventure ou son service dans un kibboutz. C'était l'idéal de la vie collective. Hein. À l'époque, le kibboutz, c'était une sorte de phalanstère, une sorte de vie ensemble. On élève les enfants ensemble, on fait tous les travaux à tour de rôle. C'était moitié monastère, moitié pointe de lance de la colonisation israélienne. Et je voyageais par Israël, j'ai parcouru tout le pays, je suis allé dans les eaux des Golans, qui étaient encore brûlées par les napalms de la guerre de l'année d'avant.
De 1967.
67, encore, j'étais au Golan, je suis allé à la frontière libanaise, je suis allé à Eilat, j'ai parcouru tout Israël, parfois en faisant de l'autostop sur des colonnes blindées de l'armée israélienne qui vous faisait monter sur la tourelle des temps. Mais c'est alors que j'ai compris un peu le conflit, non? Je suis allé dans les ruelles de Jérusalem quand le juif allait prier dans le mur. Non, et je voyais les premières bagarres entre Israéliens et Palestiniens pour le dôme, les monuments religieux, les murs, la mosquée. Ça m'a été un véritable réveil à un conflit que j'ai suivi le reste de ma vie. Ensuite, je suis rentré en Espagne et je suis allé faire mon poste de mes études à Paris.
Et là, vous avez fait des études d'ingénierie, d'économie, oui. De mathématiques. On vous a quitté à la fin de l'épisode 1, économiste, ingénieur en aéronautique, professeur de mathématiques. Et dans les années 70, vous rejoignez le Parti Socialiste Ouvrier espagnol. Qu'est-ce qui a fait Est-ce que c'est fort de ces expériences aussi, peut-être les cours du soir à Sciences Po, qui étaient des cours d'économie marxiste, dont vous nous parliez dans l'épisode présent. Qu'est-ce qui a fait que vous aviez eu envie de rejoindre...
Ça ne m'a pas beaucoup impressionné, les cours d'économie marxiste, mais j'étais étudiant à Stanford. Je voulais faire un doctorat. Un doctorat, ça prenait au moins 3 ans, plutôt 4. Et Franco était en train de mourir. Et je ne voulais pas ne pas être dans mon pays au moment où Franco mourait. Je voulais être présent. Et alors j'ai arrêté mes études. Je me suis contenté avec un master, pas avec un PhD américain. Ça m'a toujours manqué. Mais je suis rentré parce que Franco allait mourir. Il fallait être sur place parce que tous mes camarades d'école, tout le monde prenait une position politique vis-à-vis du changement de régime. Et à l'époque, il y avait les partis socialistes, les partis communistes. Les partis communistes avaient fait un rôle très important dans la clandestinité. Les partis socialistes, moins. Mais beaucoup de mes collègues...
Ou camarades.
Mes camarades. Quelques-uns sont allés au Parti communiste, d'autres sont allés, nous sommes allés au Parti socialiste. Les premières élections démocratiques, 1978, la Constitution. Les premières élections municipales démocratiques, 1979. Je me rappelle que le mois de juin 1979, j'ai fait un cours de spécialisation dans l'MIT. À Massachusetts. Et je suis rentré pour joindre la candidature municipale du village où j'habitais dans les alentours de Madrid. Je suis passé de Massachusetts à la candidature municipale. On a gagné. Et je suis devenu conseiller municipal.
Ça, c'était votre premier poste. Mais vous allez beaucoup trop vite, José Borrell, parce que moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé justement entre... la mort de Franco, le 20 novembre 1975. D'abord, j'ai déjà même envie de savoir si vous vous souvenez du jour de la mort.
Absolument. Je me rappelle de l'endroit, de l'heure, de tout. On allait au travail, on était dans la voiture avec un autre ami, on travaillait encore dans la compagnie pétrolière comme ingénieur, et la radio qui a dit « Franco est mort ». Franco est mort. Et alors là, c'est des bombes. Maintenant, a commencé une aventure politique qui a été exceptionnelle dans l'histoire de l'Espagne. L'histoire qui est miraculeuse. Le fait que les systèmes aient changé de l'intérieur. C'est-à-dire que le franquisme a fait harakiri. Le franquisme a voté des lois pour dissoudre le franquisme et établir la démocratie. Et ça a été des moments, 1975-1978, 3 ans.
Année d'adoption de la Constitution,
la Constitution
1978.
Et la légalisation du Parti communiste, les premières élections, le référendum constitutionnel, l'effet que dans les parlements espagnols qui est ici à côté, à 50 mètres, des gens qui s'étaient battus pendant la guerre civile d'un côté et de l'autre, se rencontrer en tant que députés d'un côté et de l'autre. On trouvait Santiago Carrillo, le secrétaire général du Parti communiste, on trouvait la passionaria, la femme, la lideresse du Parti communiste, on trouvait le phalangiste qui s'est retrouvé, pas d'un côté de la tranchée, mais dans le même hémicycle. Il y a eu un certain nombre d'éléments. Faire une constitution, accepter la monarchie pour les communistes, ils ont accepté la monarchie, ils ont accepté les drapeaux franquistes, se sont intégrés dans le système et qui a débouché dans un gouvernement élu démocratiquement du parti centriste, parti de Adolfo Suárez.
Vous voulez dire qu'en fait c'était un moment fragile, mais avec... beaucoup d'enthousiasme collectif et que peut-être la priorité n'était pas la revanche, mais la stabilité du pays ?
Je pense que le pays ne voulait surtout pas reprendre une guerre, mais il y a eu des gens très courageux. Il y a eu le Adolfo Suárez, qui était, finalement, il était le secrétaire général du franquisme, du mouvement. Adolfo Suárez était le secrétaire général du parti politique du franquisme, à qui le roi a commandé le démantèlement du franquisme. Et, mais pour ça, il fallait convaincre l'armée. Et pour ça, il fallait légaliser les partis communistes. Alors, pour les militaires franquistes, légaliser les partis communistes, c'était anathème total. Impossible, ça, jamais de la vie. Et, mais si on légalisait pas les partis communistes, on ne pouvait pas avoir une véritable démocratie. Alors, Adolfo Suárez, comme président du gouvernement, et son vice-président du gouvernement, le général Gutiérrez Mellado, qui était considéré comme un traître par les militaires, ils ont décidé qu'il fallait légaliser les partis communistes. Et il m'en rappelle, le vendredi des Pâques, on sortait du cinéma et la nouvelle, les partis communistes ont été légalisés. Le lendemain, les ministres militaires du gouvernement ont démissionné du gouvernement, en signe de protestation, mais Suárez a continué. Ça lui a coûté le poste, parce que finalement, la rancune contre lui était tellement forte que le roi a dû se passer de lui. Mais c'était fait.
Et comme vous évoquez à la fois ces moments-là, Josep Borrell, et des dates qui ont compté, des dates peut-être qui vous ont marqué, peut-être faut-il évoquer le 23 février 1981 et cette journée de tentative de coup d'État que ensuite Javier Sarkas a raconté magistralement dans Anatomie d'un instant. 200 putschistes dans l'hémicycle du Congrès. Et je précise qu'on a appris le 25 février de cette année 2026 la mort d'Antonio Tejero Molina, le responsable de ce coup d'État.
Oui, à l'époque, j'avais été élu conseiller municipal.
Dans la banlieue de Madrid.
De mon village.
De Majadahonda.
À l'époque, c'était un village de bergers. Et on m'avait nommé, il y avait la province, il y avait les municipes, puis la province, le département. Et le département a un conseil départemental qu'on appelait la Diputación Provincial. Et moi, j'étais membre de la Diputación Provincial. Et la Diputación Provincial était à côté du Parlement. On était là, réunis, en train de discuter des affaires de la province, quand, par la radio, on a entendu le coup de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait? On a téléphone, tout le monde. Ça, hein. Je m'en rappelle que je suis sorti parler avec les lieutenants de la garde civile qui faisaient la garde dans notre bâtiment. Je suis allé et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il se passe? Il m'a dit, je ne sais pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, obéir les ordres. Obéir les ordres, je recevrai des ordres, je vais les obéir, point. Alors je suis rentré dedans, je dis, ben, peut-être que, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on se cache? Alors on a envoyé un groupe en face du Parlement pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et je me rappelle d'avoir rentré dans le palace, Hôtel Palace. Hôtel Palace, il y avait l'armée loyale, pour ainsi dire. Et de l'autre côté de la rue, il y avait les soulevés. Alors je suis rentré là dans l'hôtel Palace, j'ai parlé avec les collègues que j'ai retrouvés par là, qu'est-ce qu'il se passe, personne ne savait rien. Et puis après l'armée est arrivée, il a dit tout le monde de partir, ils ont mis en position ses armes vis-à-vis du Parlement, ils ont commencé les pourparlers. Alors je suis rentré à la députation provinciale, j'ai dit, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et les gens ont dit, la meilleure chose que nous pouvons faire, c'est nous cacher. C'est partir et nous cacher, parce que si le coup gagne, ils vont venir pour nous. Et heureusement, cette nuit-là, à 4h le matin, le roi...
C'est le roi qui a sauvé la démocratie, en quelque sorte.
D'une certaine manière, oui, mais... Il s'est passé un très longtemps, hein, entre les premiers coups de feu et le moment où le roi est sorti en disant j'ordonne à toutes les troupes de rentrer dans ses casernes. Et la démocratie doit être respectée, l'armée sous l'autorité civile, tout ça. Mais ce jour-là, l'histoire de l'Espagne a trébuché, elle aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre. Parce que j'ai parlé après avec des officiers de la division blindée, en dehors de Madrid, vingtaine de kilomètres. Mais on est sorti, on nous a dit, allez à Madrid et prenez le Parlement. Et quand on était arrivé à la première place de Madrid, on nous a dit, rentrez, contre ordre, rentrez. Ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés dans la caserne. Mais si, une demi-heure plus tard, ils auraient pris Madrid. Et l'histoire aurait été un peu à la chilienne. Le général Armada, qui était avec les loyaux, il était dans l'hôtel Palace, je l'ai vu, là, en train de discuter avec les officiers de l'armée, il était en même temps l'instigateur du coup. L'instigateur du coup était avec les forces loyales pour essayer de faire de sorte que le coup marche. Et à un certain moment, il a été découvert, son double jeu. Mais ça a été 36 heures ou 24 heures d'une sorte de... Si vous jetez la monnaie à l'air, ça tombe d'un côté ou de l'autre.
À ce moment-là, vous, Josep Borrell, vous êtes donc élu au conseil municipal de Majadahonda. Vous êtes député provincial, comme vous le disiez. À quel moment vous êtes-vous dit « Je vais rester en politique et je vais faire de ma vie... une carrière politique, puisque dès 1982, quand Felipe González construit son gouvernement socialiste, après que le Parti socialiste a obtenu la majorité absolue aux élections législatives, vous êtes devenu secrétaire général au budget du ministère de l'économie et des finances, et puis vous étiez lancé dans la carrière nationale, puis européenne.
Tout d'un coup, oui.
Est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je vais rester en politique ?
En 81, j'étais à la fois ingénieur à la compagnie espagnole de pétrole, député à la province. J'ai préparé ma chaire à l'université. On ne pouvait pas tout faire, il fallait choisir. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, fais ton travail de député provincial comme il faut. Comme il faut, tu t'occupes de ça, parce que tu as dans les mains le budget de la province, tu vas gérer le budget de la province. Alors j'ai demandé à mon entreprise de me donner un leave of absence.
Congé sans solde.
Mettez-moi congé sans solde, parce que c'est un engagement politique et je ne peux pas faire tout. Je ne peux pas venir travailler matin, aller l'après-midi à mon poste politique et le soir préparer ma chaire. Ce n'est pas possible. Alors, mettez-moi en congé sans solde, pour un temps. Et ils m'ont dit, ah, très bien, quand tu voudras. J'ai été très coopératif. Et je me suis mis à travailler dans la gestion publique. Et ça a été une très belle expérience. Comme ça, j'ai connu Miguel Boyer, qui était le plus important conseiller économique de Pedro de Felipe. Et quand en 82, nous avons gagné les élections générales, Miguel Boyer m'a demandé de quitter la province et aller au ministère des Finances comme secrétaire général du budget, des budgets de l'État. Et je dis, bon, bah, très bien.
Vous dites comme ça, vous. Bon, bah, très bien.
Bon, oui, écoute. Et un an plus tard, il y a eu un remaniement. Et il m'a dit, non, il faut que tu sois secrétaire d'État aux finances. Pas seulement le budget, mais la finance, tout.
C'est ce qui s'est passé en 1984, vous êtes promu secrétaire d'État aux finances.
Et je dis, mais moi, je ne connais pas grand-chose dans les impôts. Moi, je ne suis pas un fiscaliste, moi, je ne suis pas un inspecteur des finances. Normalement, les secrétaires d'État de finances sont des inspecteurs des finances. Ça ne fait rien, je sais très bien que tu vas... Et j'y ai passé 8 ans.
En luttant contre la fraude et l'évasion fiscale, notamment.
8 ans comme secrétaire d'État aux finances.
Au tournant des années 80, on vient de passer la transition démocratique après 35 ans et plus de dictature. Donc le pays s'ouvre, le pays se modernise et vous avez participé à la modernisation économique du pays.
C'est formidable, ça a été une aventure intellectuelle, professionnelle même, non ? Parce que secrétaire d'État aux finances, il faut que vous êtes le chef des inspecteurs des finances et vous n'êtes pas inspecteur des finances. Alors on vous regarde un peu méfiant, non ? Qui c'est ce jeune homme ? À l'époque j'avais une barbe énorme. C'était un type castriste, une barbe gigantesque, c'était la mode, non ? Et bon, je suis arrivé là, quel âge je devais avoir 35 ans. Et puis Miguel Boyer est parti, un autre ministre de l'économie et finances est arrivé, Carlos Orchaga, un économiste très très bon, qui m'a gardé comme secrétaire d'État. Jusqu'en 1991. 8 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, on a instauré un impôt sur le revenu. Il n'y en avait pas. Au temps de l'Union européenne, on a instauré la taxe de valeur ajoutée. On a levé les secrets bancaires. Ma plus grande victoire, ça a été gagner devant le tribunal constitutionnel la loi qui supprimait les secrets bancaires. Et qu'obliger à toutes les banques de donner systématiquement tous les renseignements sur le revenu et les patrimoines de tout le monde, ce qui a été une véritable bataille légale qu'on a réussi à gagner. Et c'est ça qui a donné du sens à l'impôt sur le revenu, parce que à quoi bon avoir un impôt sur le revenu si vous ne connaissez pas le revenu ? C'est ridicule. L'impôt sur le revenu demande connaître le revenu. On connaît les salaires des travailleurs, pourquoi on n'est pas les patrimoines financiers des gens, non ? Et ça a été une bataille dure. Alors on a créé, l'agence, l'Agencia Tributaria Española,
l'agence fiscale tributaire espagnole.
Parce que j'ai dit, un département bureaucratique ne sera jamais capable de gérer des systèmes fiscaux complexes. Il faut avoir une institution. Il faut avoir des ordinateurs, il faut avoir tout ça, il faut avoir des moyens modernes. J'ai créé l'agence tributaire, ce qui m'a valu aussi beaucoup de problèmes, parce que les gens disaient que c'était la privatisation de la recette des impôts. Non, ce n'était pas du tout la privatisation, c'était des fonctionnaires, mais qui étaient encadrés dans un body, dans un corps, qui avait des moyens suffisants pour gérer des millions de déclarations sur le revenu que tout d'un coup nous tombaient sur la tête. Et ça a été une aventure exceptionnelle, magnifique, l'entrée dans l'Union européenne, les négociations pour entrer dans l'Union européenne.
1er janvier 1986, date importante. L'Espagne intègre alors ce qu'on appelait à l'époque la communauté économique européenne.
Européenne, je me rappelle, la signature au Palais Royal.
Vous étiez pour ?
Bien évidemment, j'étais pour. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous, les Français, et en particulier de Giscard d'Estaing, qu'on a attendu quelques années à cause d'un problème de tomates laitues, parce que l'agriculture française ne voulait pas qu'entre l'Espagne entre. Alors, on a décalé l'entrée de l'Espagne dans le marché commun à cause de les problèmes agricoles. Et Giscard d'Estaing n'a pas été facile. En plus, il y avait ETA.
L'ETA, oui.
ETA. Là, ça a été la véritable...
Terrorisme basque.
La véritable preuve de sens, c'était que l'armée espagnole a tenu fort, parce qu'on a tué presque 1 000 d'officiers de l'armée, parce qu'elle voulait à tout coup provoquer la rébellion de l'armée. L'armée a tenu fort. La grande peur du gouvernement socialiste, c'était que le terrorisme soit... casse les nerfs de l'armée. Mais non, ils ont tenu. Mitterrand nous a beaucoup aidés.
François Mitterrand était le président français à l'époque, élu en 1981.
Ils ont énormément aidé. Toutes les années du gouvernement socialiste avec Felipe González, on a eu les attentats terroristes. Tous les jours, il y avait quelqu'un, un officier mort, ou de haut gradé. Les gens étaient vraiment... À un moment donné, on comprend fort bien que les gens disaient, mais c'est pas tenable. Mais le pays a tenu, l'armée a tenu. Et comme ça, il n'était plus au pouvoir quand l'État a été défait.
Le pays a tenu, vous dites, Josep Borrell, peut-être même plus que ça, parce que dans un livre que vous avez publié en 1998, qui s'appelle en espagnol Al filo de los días, au fil des jours, vous parlez de la décennie 1982-91 en disant que c'est une décennie prodigieuse. C'est un livre dans lequel vous réfléchissez à l'Espagne de la transition démocratique aux transformations politiques de ces années-là, 80-90. Et vous dites que c'est vraiment une décennie prodigieuse.
Oui, ça a été un pays pauvre, arriéré, et mis à l'écart des démocraties occidentales, qui tout d'un coup entré dans la modernité. On est entré dans la modernité en modernisant d'abord les sources de revenus. Avant de dépenser, on a collecté. Et c'est ça que j'en suis fier. Pendant 8 ans, on a augmenté la collecte fiscale. Je ne peux pas vous donner les chiffres précis, mais je pense que c'est de l'ordre d'un point de PIB par an, au moins. Parce que le franquisme n'avait pas besoin de revenus. Il fallait payer la police, l'armée, et pas beaucoup de choses. Mais la volonté démocratique de bâtir une société plus juste demandait des ressources. Un système public de retraite, un système de santé universel. Très bien, mes discussions avec Felipe González, secrétaire d'État de Finances, il me disait, il faudrait monter les pensions. Je dis, oui, sans doute, il faudrait monter les pensions. De combien ? Alors, je faisais les comptes dans les vagues de l'enveloppe. Tant de pensions, tant de pensionnistes, tant de mois, ça coûte tant de milliards. Tant que ça, oui. Alors, il faudra le faire. Mais il faudra monter les impôts. Il faudra monter les recettes fiscales. Et c'est ça qui a fait le côté positif de la transition espagnole, c'est qu'au lieu de se lancer à dépenser, à dépenser, à dépenser, on a mis les bases d'un système fiscal qui donne des ressources à l'État. Ça, je pense que c'est une caractéristique très positive de la transition politique espagnole. Et ça a été construit entre 1983 et 1991, j'ai quitté le ministère des Finances, finalement.
Mais vous intégrez un autre ministère dans le troisième gouvernement de Felipe González, qui a eu donc 3 mandats, et vous devenez, Josep Borrell, ministre des Travaux publics, des Télécommunications et des Transports, puis de l'Environnement. Et nous verrons ça dans l'épisode suivant. À suivre l'épisode 3, on parlera des années 1990 et du cœur battant de la politique espagnole. À demain. C'était À Voix Nue avec Josep Borrell, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.